Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, deuxième partie, premier chapitre, dixième sous-chapitre. Dans les sciences des corps vivants, comme dans celles des corps bruts, l'expérimentateur ne crée rien. Il ne fait qu'obéir aux lois de la nature. Nous ne connaissons les phénomènes de la nature que par leur relation avec les causes qui les produisent. Or, la loi des phénomènes n'est rien autre chose que cette relation établie numériquement, de manière à faire prévoir le rapport de la cause à l'effet dans tous les cas donnés. C'est ce rapport établi par l'observation qui permet à l'astronome de prédire les phénomènes célestes. C'est encore ce même rapport, établi par l'observation et par l'expérience, qui permet aux physiciens, aux chimistes, aux physiologistes, non seulement de prédire les phénomènes de la nature, mais encore de les modifier à son gré et à coup sûr, pourvu qu'ils ne sortent pas des rapports que l'expérience lui a indiqués, c'est-à-dire de la loi. Ceci veut dire, en d'autres termes, que nous ne pouvons gouverner les phénomènes de la nature qu'en nous soumettant aux lois qui les régissent. L'observateur ne peut qu'observer les phénomènes naturels. L'expérimentateur ne peut que les modifier. Il ne lui est pas donné de les créer ni de les anéantir absolument, parce qu'il ne peut pas changer les lois de la nature. Nous avons souvent répété que l'expérimentateur n'agit pas sur les phénomènes eux-mêmes, mais seulement sur les conditions physico-chimiques qui sont nécessaires à leur manifestation. Les phénomènes ne sont que l'expression même du rapport de ces conditions, d'où il résulte que les conditions étant semblables, le rapport sera constant et le phénomène identique, et que les conditions venant à changer, le rapport sera autre et le phénomène différent. En un mot, pour faire apparaître un phénomène nouveau, l'expérimentateur ne fait que réaliser des conditions nouvelles. Mais il ne crée rien, ni comme force, ni comme matière. À la fin du siècle dernier, la science a proclamé une grande vérité, à savoir qu'en fait de matière, rien ne se perd, ni rien ne se crée dans la nature. Tous les corps dont les propriétés varient sans cesse sous nos yeux ne sont que des transmutations d'agrégations de matière équivalente en poids. Dans ces derniers temps, la science a proclamé une seconde vérité dont elle poursuit encore la démonstration et qui est en quelque sorte le complément de la première, à savoir qu'en fait de force, rien ne se perd ni rien ne se crée dans la nature. D'où il suit que toutes les formes des phénomènes de l'univers varient à l'infini, ne sont que des transformations équivalentes de force les unes dans les autres. Je me réserve de traiter ailleurs la question de savoir s'il y a des différences qui séparent les forces des corps vivants de celles des corps bruts. Qu'il me suffise de dire pour le moment que les deux vérités qui précèdent sont universelles et qu'elles embrassent les phénomènes des corps vivants aussi bien que ceux des corps bruts. Tous les phénomènes, de quelque ordre qu'ils soient, existent virtuellement dans les lois immuables de la nature, et ils ne se manifestent que lorsque leurs conditions d'existence sont réalisées. Les corps et les êtres qui sont à la surface de notre Terre expriment le rapport harmonieux des conditions cosmiques de notre planète et de notre atmosphère avec les êtres et les phénomènes dont elles permettent l'existence. D'autres conditions cosmiques feraient nécessairement apparaître un autre monde, dans lequel se manifesteraient tous les phénomènes qui y rencontreraient leurs conditions d'existence, et dans lequel disparaîtraient tous ceux qui ne pourraient s'y développer. Mais quelles que soient les variétés de phénomènes infinis que nous concevions sur la Terre, en nous plaçant par la pensée dans toutes les conditions cosmiques que notre imagination peut enfanter, Nous sommes toujours obligés d'admettre que tout cela se passera d'après les lois de la physique, de la chimie et de la physiologie qui existent à notre insu de toute éternité et que dans tout ce qui arriverait, il n'y aurait rien de créé ni en force ni en matière, qu'il y aurait seulement production de rapports différents et par suite création d'êtres et de phénomènes nouveaux. Quand un chimiste fait apparaître un corps nouveau dans la nature, il ne saurait se flatter d'avoir créé les lois qui l'ont fait naître. Il n'a fait que réaliser les conditions qui exigeaient la loi créatrice pour se manifester. Il en est de même pour les corps organisés. Un chimiste et un physiologiste ne pourraient faire apparaître des êtres vivants nouveaux dans leur expérience qu'en obéissant à des lois de la nature qu'ils ne sauraient en aucune façon modifier. Il n'est pas donné à l'homme de pouvoir modifier les phénomènes cosmiques de l'univers entier, ni même ceux de la Terre. Mais la science qu'il acquiert lui permet cependant de faire varier et de modifier les conditions des phénomènes qui sont à sa portée. L'homme a déjà gagné ainsi sur la nature minérale une puissance qui se révèle avec éclat dans les applications des sciences modernes, bien qu'elles paraissent n'être encore qu'à son aurore. La science expérimentale appliquée au corps vivant doit avoir également pour résultat de modifier les phénomènes de la vie en agissant uniquement sur les conditions de ces phénomènes. Mais ici, les difficultés se multiplient à raison de la délicatesse des conditions des phénomènes vitaux, de la complexité et de la solidarité de toutes les parties qui se groupent pour constituer un être organisé. C'est ce qui fait que probablement jamais l'homme ne pourra agir aussi facilement sur les espèces animales ou végétales que sur les espèces minérales. Sa puissance restera plus bornée dans les êtres vivants et d'autant plus qu'ils constitueront des organismes plus élevés, c'est-à-dire plus compliqués. Néanmoins, les entraves qui arrêtent la puissance du physiologiste ne résident point dans la nature même des phénomènes de la vie, mais seulement dans leur complexité. Le physiologiste commencera d'abord par atteindre les phénomènes des végétaux et ceux des animaux qui sont en relation plus facile avec le milieu cosmique extérieur. L'homme et les animaux élevés paraissent au premier abord devoir échapper à son action modificatrice parce qu'ils semblent s'affranchir de l'influence directe de ce milieu extérieur. Mais nous savons que les phénomènes vitaux chez l'homme, ainsi que chez les animaux qui s'en rapprochent, sont liés aux conditions physico-chimiques d'un milieu organique intérieur. C'est ce milieu intérieur qu'il nous faudra d'abord chercher à connaître parce que c'est lui qui doit devenir le champ d'action réel de la physiologie et de la médecine expérimentale.